Alors nous allons commencer par lire dans l'Épître à Tite, au premier chapitre, des versets 1 à 14. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il a manifesté au temps propre sa parole, dans la prédication qui m'a été confiée à moi, selon le commandement de notre Dieu Sauveur. À Tite, mon véritable enfant selon la commune foi, grâce et paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que dans chaque ville tu établis des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas pour un gain honteux. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient sains dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. » Donc nous lirons la suite des passages, chapitres 2 et 3, tout à l'heure. Je lis le petit papier qui vous a été distribué tout à l'heure à l'entrée, le thème qui va nous occuper. Comment Dieu s'occupe-t-il des assemblées en Crète, faibles et en désordre? Nous pensons utile de trouver ensemble, dans les versets cités, que dans la grâce et pour la paix, premièrement, Dieu reconnaît une autorité locale et la caractérise. Deuxièmement, Dieu souligne la nécessité d'une discipline. Troisièmement, Dieu donne des conseils pour combler les insuffisances. Je rajouterai aux frères qui sont dans la salle et qui ont une pensée à exprimer ou une question que je leur porterai volontiers le micro. Ils peuvent aussi venir, mais si vous faites un petit signe, je vous l'apporterai.
Qu'est-ce qui nous a amené au désir d'étudier cette portion, de revenir sur cette portion de la parole de Dieu? Eh bien, c'est le fait que dans la chrétienté aujourd'hui, beaucoup de questions se posent, un trouble se manifeste d'une manière générale, nos rassemblements ne sont pas mis de côté à cet égard, et celui qui travaille pour détruire essaie aussi d'introduire des difficultés et de troubler parmi nous. Alors évidemment, la question qui se pose devant une situation comme celle-ci est comment faut-il réagir? Et nous avons pensé que plutôt que de chercher à la manière des hommes la réaction la plus heureuse et la plus efficace, il nous était utile de nous pencher sur la parole de Dieu pour voir comment Dieu, quand il conduit les choses, apporte une aide et des remèdes justement dans ces circonstances-là. Il est utile de remarquer que les Crétois, nous allons le voir dans le premier chapitre, avaient une renommée particulière, on l'a entendu tout à l'heure déjà dans la lecture. Il y avait pourtant ici, après le passage de Paul, qui a laissé Tite, justement parce qu'il y avait encore du travail à faire, des assemblées. Mais ces assemblées avaient, à cause du caractère des gens qui habitaient cette île, un certain nombre de difficultés. Alors, on n'entend pas, nulle part, dans l'épître, ni dans d'autres épîtres où nous apprenons un certain nombre de choses difficiles et difficilement supportables, comme à Corinthe par exemple, eh bien, laissez-les régler les choses avec Dieu. Mais nous voyons Dieu envoyer quelqu'un pour s'occuper des assemblées. Nous n'entendons pas dire non plus, eh bien voilà, pendant un temps, plus de contact avec ceci. Non, nous allons apprendre que Dieu voit les choses d'une manière différente. Ce que nous souhaitons, c'est bien entendre ce message-là. Cet épître fait partie d'un groupe de trois, les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite, qui sont appelées les épîtres pastorales, justement parce qu'elles apportent dans des difficultés ou parce qu'il y a encore un caractère de jeunesse et des choses importantes à apprendre sur le plan pratique, Dieu apporte une aide, donne un certain nombre d'indications, dénonce ce qui est contraire à sa pensée, et nous sommes surpris de voir ici que s'il y a quelques indications qui ont un caractère négatif, ce qui domine, c'est le caractère positif. Alors, voilà quelque chose qui va nous instruire aussi. Et avec la première partie du premier chapitre, nous allons découvrir qui vient nous apporter un enseignement, quel est le chemin
de la région, on l'avait entendu, moi je l'avais noté sur ma Bible, on a 19 fois le mot foi, 10 fois le mot piété, bon, quelqu'un a fait tous les comptes, hein. En tout cas, c'est clair que dans chacune de ces trois épîtres, il y a la redondance de ces deux idées-là qui viennent. Et il me semble que le fil rouge des trois épîtres, dont celle de l'épître à Tite, c'est la cohérence entre notre vie de foi et notre vie de piété. Comme l'a dit Jean-Luc, la saine doctrine va amener une marche en ordre. Oui, en effet, si je crois au Seigneur Jésus, si j'ai reçu dans mon cœur ce qu'il attend de moi, eh bien, cela doit impliquer dans ma vie un mode de vie différent de ceux qui n'ont pas cette foi. La mondanité, des choses contre nature, de la fainéantise, comme le caractère primordial des Crétois, on pourrait dire pour nous Français, l'avant-tardise. Si vous déplacez dans le monde, vous entendrez que les Français sont vantards. Donc nous, on a ce travers-là, essayer de lutter aussi contre ce travers-là. Si on a reçu la foi dans son cœur, on ne va pas vivre comme les autres. Mais il y a aussi, ça complète un petit peu ce qui a été dit, le phénomène inverse. Dans le chapitre 1er, au verset 10, on a lu qu'il y avait des insubordonnés, des vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il fallait fermer la bouche. Ceux-là, c'est quoi? Ceux-là, c'est des gens qui ont la forme de la piété, mais qui en ont renié la puissance. Donc chez eux non plus, il n'y a pas la cohérence entre cette foi véritablement reçue dans le cœur et cette vie qui plaît à Dieu. Donc deux solutions. Soit on appartient vraiment au Seigneur Jésus, et on veut pourtant dire, ah ben voilà, Christ m'a placé dans la liberté, je fais tout. Tout et n'importe quoi, c'est pas juste. Et c'est pas ce que nous rappelle cet épître. Soit on dit, oh c'est bien de se glisser dans le mou, il y a quelques avantages à tirer, on va faire semblant d'avoir une vie de piété, mais on n'est pas engagé dans son cœur. Ça non plus, ça n'est pas selon Dieu, ça finira par se voir, il faut leur fermer la bouche, et à la fin de, au chapitre 3, bon je sais que c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, excusez-moi, mais au verset 10, il est dit aussi de rejeter des gens qui font semblant d'avoir une vie de piété, mais ça n'est pas, c'est une forme extérieure, ça n'est pas un engagement profond du cœur. Donc peut-être penser à ça aussi, à nous, un rappel, aujourd'hui, et le sujet qui est devant nous, que les deux assemblées qui nous reçoivent, soyez au Saint-Cybardo, ont voulu passer devant nos cœurs, c'est le sujet de la vie d'assemblée, et bien être en cohérence. être en cohérence avec vraiment ce que l'on croit dans son cœur, ce que l'on a reçu dans son cœur, et la façon dont on va le vivre.
Je crois qu'on rêve tous d'être dans une assemblée où tout va bien, où les relations sont excellentes, où il n'y a personne qui traîne la patte, où il n'y a personne qui s'oppose, et puis où il y a un service magnifique pour le Seigneur. Je ne sais pas si on trouve la description d'une telle assemblée dans le Nouveau Testament. Et l'exemple de ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui va tout à fait dans ce sens-là. Tu viens de souligner, Daniel, les insubordonnés, les discoureurs, etc. Si la parole de Dieu s'appliquait en Crète où il y avait ces problèmes, ça veut dire aussi qu'elle s'applique chez nous, même si ce n'est pas parfait. On pense que Tite, avec le service qu'il avait, était particulièrement qualifié pour ce service, et il avait des atouts forts et pour que ça se passe bien. J'en suis pas persuadé. C'était un grec, et les opposants, c'était ceux de la circoncision, chapitre 1er, verset 10. Donc il allait déjà avoir des problèmes comme ça, ils n'étaient pas de la même origine et c'était pas simple. Ensuite, il y avait des conduites qui étaient différentes dans l'entreprise, dans l'assemblée, ça devait pas être simple. Il y avait des personnes âgées, des frères, des sœurs. Mais alors, l'apôtre met le doigt sur quelque chose, là, en lui disant, chapitre 2, verset 7, « Te montrant toi-même, en toute chose, un modèle de bonnes œuvres. » Il me semble que l'apôtre, là, nous sollicite un peu chacun en nous disant, « Bon, tu te plains de ceci, tu te plains de cela, il y a telle difficulté. » Et si tu commençais, toi, par être un modèle? Alors, c'est facile à dire, hein, moi, j'ai pas le droit de vous le dire, mais c'est quand même Dieu qui l'a fait consigner dans cette épître. Et Dieu veut nous placer devant lui, pour que, justement, avant de rejeter la pierre sur les autres, on commence à se placer personnellement devant Dieu. C'est ce que l'apôtre avait dit à Timothée, te présenter à Dieu d'une façon telle qu'il puisse t'approuver. Et l'invitation dans ces épîtres est très nette. C'est pas pour rien que les bonnes œuvres sont citées aussi à 6 reprises. Merci de nous l'avoir dit, Jacques. Hein, on le répète comme ça sera noté. Dieu nous invite à ce qu'on assimile les pensées qui sont dans les Écritures. Mais il nous invite surtout à ce qu'il y ait un fruit et à ce que nous vivions ces choses. Alors il y aura du bien. Tite n'allait pas rester longtemps en Crète, puisqu'au chapitre 3, verset 12, il lui est dit « Empresse-toi de venir auprès de moi dès que Artémas sera là ». Ce qui nous montre aussi que quand nous nous tenons dans la main de Dieu avec foi, Dieu peut agir rapidement pour le bien dans nos assemblées. Alors écoutons avec intérêt ce que Dieu a consigné dans cette épître.
Peut-être que pour que ça fonctionne bien, non seulement il était nécessaire que, on le verra, qu'il y ait des anciens dans les assemblées locales, mais comme on vient un peu de l'entendre, que chaque croyant aille bien spirituellement. Si il n'y a que 2-3 personnes qui vont bien dans une assemblée locale et toutes les autres vont mal, ça sera difficile, effectivement, de mettre en pratique ce qu'on entendra cet après-midi. Alors, c'est sûr que le premier paragraphe de ce chapitre vous donne un petit peu la mission de l'apôtre Paul. Il a des choses à enseigner. D'abord, la foi pour les élus de Dieu, ceux qui ont été choisis. Il a enseigné la foi. y a aussi la connaissance de la vérité qui est selon la piété, verset 2, bon, pour vivre en étant fidèle à Dieu. Et ça, c'est pas seulement pour Tite ou pour quelques anciens, c'est pour chacun de nous. Et si vous avez remarqué, la suite, donc qui est selon la piété, donc pour être fidèle à Dieu, si on peut dire comme ça, une relation personnelle avec Dieu, et dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Et ça a été manifesté au temps propre, et Paul a cette mission d'annoncer qu'une promesse de Dieu vient de s'accomplir. La promesse de la vie éternelle. Vous avez remarqué que c'était avant les temps des siècles que Dieu a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? En tout cas, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas de création. Et Dieu a fait une promesse. À qui? Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait que son fils. Et il a promis à son fils qu'il allait donner son fils pour être la vie éternelle à des personnes choisies. Des personnes qui vont pouvoir avoir la vie divine, la vie du fils, et pour l'éternité. Une relation d'intimité où les pensées de Dieu vont être révélées, où il va y avoir un échange de vie entre une créature qui existera plus tard et Dieu. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui n'a pas commencé au début de la Genèse, puisque ça a été manifesté à un moment donné, au temps propre, quand le Seigneur Jésus est venu. Pourquoi l'apôtre Paul a cette mission? C'est pour dire que vous et moi, nous sommes dans une situation exceptionnelle, un privilège exceptionnel, de connaître déjà aujourd'hui que nous avons une relation d'intimité avec Dieu qui est notre Père. Et ça va induire notre vie. Si on perd ça de vue, nous allons vivre une vie chrétienne comme une religion où on va accomplir un certain nombre de dogmes ou certains rites. Et on va essayer d'y arriver. Et finalement, ça arrivera à quoi? Eh bien, on n'y arrivera pas, et ce sera la catastrophe. Donc peut-être que cette lettre commence par nous rappeler que ce qui va être la source de notre vie, c'est cette relation d'intimité avec le Seigneur Jésus. Lui qui nous a donné sa vie, nous avons la vie de Christ. Et nous sommes Christ en nous, lui en nous. Nous en lui, et lui en nous. Tout ça pour dire que la clé de notre vie collective, on a dit tout à l'heure, c'était la base, c'était notre vie de relation personnelle avec notre Dieu. Et c'est vrai que ça ne pourra fonctionner que si cette relation est heureusement vécue. Alors souvenons-nous que nous sommes actuellement des personnes privilégiées qui ont une relation toute particulière, qui savent et qui peuvent dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu ». Et que, à partir de là, eh bien, notre moteur, ce qui permettra justement d'orner, ce qui permettra que la parole ne soit pas blasphémée, ce qui permettra aussi que nous puissions comprendre le message de Dieu, eh bien, puisse être vécu par chacun de nous et tous ensemble.
Dans cet épître, le Seigneur Jésus n'est jamais appelé le Seigneur. Mais l'accent est mis sur notre relation avec Dieu. Et nous trouvons trois fois l'expression « notre Dieu sauveur ». C'est ce conseil, ce projet de Dieu de toute éternité, c'est de sauver, le Dieu sauveur. Et puis, il y a aussi une chose qu'on peut souligner à la fin du verset 2, c'est en lisant un peu cet épître, en pensant à ces réunions, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, pourtant on le lit souvent, c'est Dieu qui ne peut mentir. Tout cela est basé, tout ce projet de Dieu, cette vie aussi, ce projet d'avoir une église, une assemblée, l'assemblée de Dieu, qui s'est acquise par le sang de son propre fils, tout ce projet-là, c'est Dieu qui le fait, il a fait des promesses, la promesse de la vie éternelle, Il a fait des promesses aussi quant à la construction de l'assemblée. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée et les forces du Hadès ne prétendront pas contre elle. Eh bien, c'est Dieu qui ne peut mentir. Et il me semble que, pour moi en tout cas, dans ma vie, j'ai besoin de me rappeler de quand je lis la parole de Dieu, que je trouve les promesses de Dieu, elles sont faites par le Dieu qui ne peut mentir. Et cela remplit le cœur de bonheur, de joie, parce que si d'un côté, parfois, on pourrait peut-être se décourager, trouver que les choses vont pas bien, que c'est pas ça. Non, non, les choses vont pas bien, d'accord, peut-être, mais tout est dans les mains de Dieu. Du Dieu qui ne peut mentir. Alors là, ça donne l'énergie. Il y a une chose aussi, je voudrais peut-être revenir sur le mot piété. On a parlé souvent, plusieurs fois de la piété. Et je ne sais pas si on va vers les plus jeunes d'entre nous qu'on pose la question, qu'est-ce que c'est que la piété et puis si on monte un peu en rendage, ça va peut-être être un peu difficile comme réponse. Les choses sont simples, il me semble. La piété, c'est, dans un sens, vivre avec Dieu tous les jours, dans toutes les circonstances de notre vie. Introduire Dieu dans ma vie. Ou plutôt aller vers Dieu pour toutes les circonstances de ma vie. Il n'y a pas de partie de notre vie qui n'intéresse pas notre Père. Et développer, jour après jour, moment après moment, cette relation avec notre Dieu, c'est cela la piété. Ce n'est pas des actes pieux, simplement, comme on le dit parfois. Ce n'est pas quelque chose qui se vit le dimanche ou à quelques moments. Non, mais c'est vivre avec Dieu, introduire Dieu dans toutes les circonstances de notre vie et aller vers Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, il s'agit d'une connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est-à-dire que connaître la vérité de Dieu, ce ne sera possible que dans la mesure où nous vivrons dans la proximité de Dieu. On ne peut pas séparer la doctrine de Dieu de celui qui l'a donnée. On ne peut pas la séparer de Dieu. Et on ne peut pas le séparer d'une relation vécue avec Dieu. Sinon, On va essayer de faire un peu comme disait Philippe tout à l'heure, on va se contenter de dogmes qui sont extérieurs à nous, et puis de principes, de préceptes que l'on va essayer de faire sans jamais y arriver. Mais ce n'est pas cela, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation vécue avec Dieu. On reçoit l'enseignement que Dieu nous donne par la foi, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de recevoir ce que Dieu nous donne. Et on vit par la foi, dans la confiance en Dieu, cet enseignement jour après jour. C'est simplement une vie naturelle, normale.
Alors le moment est venu de peser un petit peu plus fort sur ce que nous venons d'entendre. Dieu a choisi Paul, et Paul, il est d'abord esclave de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour un autre, pas pour se faire valoir ou pour imposer ses conceptions, mais pour être entièrement dans la dépendance de celui qui détient la vérité, dont la volonté est une volonté bienfaisante et qui opère pour le bien. Apôtre de Jésus-Christ, il a reçu une autorité à cause de ses dispositions intérieures et il lui a été donné une qualification qui fait que ce qu'il communique, ce sont les pensées que Dieu veut voir communiquer. Ça ne veut pas dire que c'était un homme sans défaillance, hein, puisque la parole consigne certaines choses le concernant, mais quand il exprime ce qu'il exprime ici, qui est d'une importance capitale pour cette île, il traduit bien que ce qu'il apporte, c'est que ce que Dieu lui demande d'apporter. Il y a quelque chose pour les jeunes. dites. Paul lui délègue en quelque sorte son autorité. Trouvons la même chose avec Timothée. Tite, nous le rencontrons dans la seconde épître aux Corinthiens, par exemple. Il a connu avec Paul un certain nombre d'expériences au sujet de ce qui se passait à Corinthe. Il a appris un certain nombre de choses, il a connu une formation, il a appris comment Paul était dépendant de Dieu, comment il désirait suivre le Seigneur, ce qu'était véritablement sa vie. Et entre les épîtres aux Corinthiens et cet épître-là, il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà donc un homme qui a connu des expériences personnelles, qui a appris, qui a suivi le Seigneur, qui a vécu les choses qu'il avait entendues, qui les a apprises pour les vivre, et maintenant le voilà qualifié pour remplir une fonction difficile. Les jeunes, si vous ne commencez pas aujourd'hui à désirer ce que nous avons exprimé de différentes manières, même si vous regardez Paul ou Tite avec envie, eh bien, en ne vous impliquant pas aujourd'hui, vous vous privez demain d'entrer justement dans un service utile et efficace. Donc, j'insiste encore, se laisser instruire pour vivre les choses. On le verra de nombreuses fois durant cet après-midi, l'exemple d'abord, le cœur engagé pour Dieu d'abord, les pensées formées à celles de Dieu d'abord, et ensuite, nous pouvons être utiles, vivre dans la joie et dans la reconnaissance, même au milieu de l'adversité ou d'une opposition quelquefois difficile à gérer.
Le titre, dans ma Bible, j'ai une note, alors je ne sais pas si c'est sous réserve que je le livre, c'est une note que je tiens d'une réunion de Corbruns à Bordeaux, titre voudrait dire « nourrice ». En tout cas, si c'est vrai, c'est assez, ça nous parle de la façon dont on a dit qu'on voulait voir comment Dieu allait remettre de l'ordre dans les assemblées de Christ. Mais c'est pas comme dans une entreprise où on va envoyer quelqu'un qui va avec autorité remettre de l'ordre. La nourrice, d'abord, elle aime, et je crois que c'est que comme ça qu'on peut être utile dans l'assemblée, c'est si on aime vraiment beaucoup ses frères. Et puis, elle donne du lait. Alors il faut la nourriture, parce qu'on l'a dit, mais c'est par la parole que ça passe.
Un verset, enfin un petit paragraphe dans l'évangile selon Marc pour abonder dans ce que nous a dit Jacques et Jean, ce que nous ont dit Jacques et Jean. Donc Marc chapitre 10, et je vous propose de lire les versets 42 à 45 pour insister sur la notion de service. Jésus les appelle des disciples, Jésus les ayant appelés auprès de lui leur dit: vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles, mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Servir. Là, en Crète, il y avait des choses à faire. On a lu, et on va sans doute réfléchir sur les compétences ou les caractéristiques de ceux qui étaient appelés à participer à cette mise en ordre et à régler les problèmes internes dans les assemblées. Mais leur première étiquette sur la carte de visite, c'est pas « je suis un ancien », c'est « je suis un serviteur », au service des autres, selon les besoins des autres, pas pour se faire un nom, pas pour se faire une réputation, mais pour aider les autres à avancer vers le Seigneur.
sur l'expression « élu de Dieu », parce que si on est trop long, on ne pourra pas voir le chapitre. Je crois que la doctrine de l'élection, c'est quelque chose d'important dans la Bible, qui revient souvent. Alors, on va pas en parler maintenant, parce que ça serait pas, c'est pas le sujet. Puis, en plus, moi, je suis pas compétent, parce que j'ai essayé l'autre jour à une réunion, on m'a dit que je m'avais mal parlé. Mais je crois que ça vaut la peine de se pencher, parce que la Bible, on l'a pour deux choses. On l'a pour savoir comment se conduire, c'est surtout ce qu'on a dit en introduction, mais on l'a aussi pour connaître Dieu. Et la doctrine de l'élection, c'est Dieu qui se dévoile à nous, et plus on le connaîtra, et plus on l'aimera, et plus on l'adorera comme il le mérite. Alors je crois que ça vaut la peine que ceux qui veulent progresser se penchent sur cette doctrine pour connaître ce que Dieu nous a dit dessus.
Ce que tu dis est intéressant, même si tu ne sais pas en parler, on a été très intéressé de l'entendre. C'est que elle souligne l'importance de la place de Dieu d'abord. Et ce premier paragraphe, comme dans les épîtres, dans les autres épîtres d'ailleurs à Timothée et Tite, il y a des exhortations extrêmement précises, extrêmement pratiques, je dirais presque très concrètes, qui s'adressent à tous ceux qui sont dans l'assemblée, les vieillards, les jeunes, les esclaves, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, mais et puis des choses qui vont toucher à la santé, au bien-être de l'ensemble. Tu as parlé de nourrice. Et peut-être que dans le monde où on vit, on est toujours terriblement centré sur l'homme et sur qu'est-ce qui m'est dû, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais. Et dans l'assemblée, peut-être qu'on a un peu peut-être tendance à dériver un petit peu vers ça, être très occupé de ce qui nous est dû, de ce que nous faisons, du soin que nous avons les uns pour les autres. Mais n'oublions pas, et le premier paragraphe, c'est à chaque ligne, Philippe l'a déjà dit un peu, mais à chaque ligne, pratiquement, c'est Dieu qui est mis en valeur. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus, c'est le propos de Dieu, c'est le Dieu qui ne peut mentir, c'est l'élection selon le propos de Dieu. Et dans ces trois épîtres, peut-être qu'on trouve, et ça vaut la peine de le lire, des déclarations absolument magistrales sur la grandeur et le caractère de Dieu. Et pour se conduire dans l'assemblée, pour bien profiter de ces exhortations, gardons à l'esprit que ce que Dieu fait, c'est d'abord pour lui-même. Et ce que nous faisons, la vision que nous avons et la marche que nous avons, eh bien c'est en référence, par rapport à Dieu et pour lui.
On veut expliquer des choses difficiles comme l'élection par rapport à nous-mêmes et on n'y arrive pas trop bien, alors qu'elle révèle le caractère de Dieu. Un verset qui montre ce qu'est l'élection, peut-être, bon, je serai bref, hein. C'est dans Actes 7, on sait tous que Abraham était élu. Mais la parole ne le dit pas comme ça. La parole dit « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham ». Et Dieu se révèle comme un Dieu de gloire parce qu'il peut élire. Dans notre épître, hein, il sera question de la bonté d'un Dieu sauveur, de son amour envers les hommes. Quand nous butons, c'est que souvent nous ne nous prenons pas par le mauvais bout, par nous-mêmes, alors que Dieu nous parle de lui-même, de sa grandeur.
Il y avait eu déjà, avec le passage de Paul et de Tite ensemble alors, un certain travail qui avait été opéré pour le bien de ce Crète dans les assemblées. Les assemblées étaient nées là, et il restait encore des choses à régler. Le désir de Dieu, avec ce que nous venons d'entendre, est que dans les rassemblements, les choses soient le plus possible selon la pensée de Dieu pour la bénédiction. Il restait donc encore quelque chose, et Paul qui était passé par là et qui désirait le bien de tous ceux qui se trouvaient là et des rassemblements, restait préoccupé. Donc un travail était commencé, il avait cela à cœur, il continuait à penser à ceux qu'il avait vus, et il désirait que les choses soient menées plus loin pour leur profit. Alors, sans attendre, lorsqu'il part et qu'il laisse Tite, il écrit à Tite et il lui rappelle justement les choses qui restent à régler. Il faut qu'il mette en bon ordre ce qui reste à régler. Et d'abord, que dans chaque ville, il établisse des anciens. Il y avait donc ici besoin d'une autorité reconnue de Dieu, mais cette autorité n'est pas établie à la manière des hommes, elle ne s'impose pas comme les choses s'imposent dans un contexte humain où l'homme dirige les choses. Il y avait un certain nombre d'indications et nous assistons ici, justement, en lisant, aux indications que Dieu donne pour que ces anciens puissent être utiles dans les rassemblements. Il fallait qu'ils manifestent, nous revenons à ce que nous avons dit, d'abord montrer l'exemple, d'abord vivre les choses, les caractères qui sont signalés ici, sur lesquels nous allons sans doute nous arrêter un petit peu. Et ces caractères conduisent à les reconnaître, réaliser que c'est dans la parole de Dieu et que c'est vécu sur le plan pratique, nous conduit à voir que la pensée de Dieu est réalisée et que nous reconnaissons une qualification que Dieu a donnée à l'un et à l'autre. Nous ne sommes pas alors soumis sur un plan humain seulement, mais nous sommes soumis parce que les choses sont dans l'ordre des pensées de Dieu. Nous reconnaissons tel ou tel parce que la parole de Dieu est respectée. C'est une pensée qu'on trouve dans d'autres contextes, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien d'ailleurs. Quand ce qui est de Dieu est respecté, c'est l'ordre des pensées de Dieu, nous nous inscrivons là et nous le respectons. Ça, c'est un bien pour les rassemblements. Donc, nous allons voir le côté de la responsabilité des anciens et puis ensuite, le côté de la responsabilité de tous ceux qui, amenés à reconnaître ces caractères, doivent être, effectivement, s'ils veulent s'inscrire dans la pensée de Dieu, soumis à ceux auxquels Dieu a donné cette qualification. Et nous verrons avec quel amour, puisque nous avons parlé tout à l'heure de cette réalité indispensable, avec quelle grâce, avec quel dévouement, les anciens, s'ils ont véritablement les caractères qui sont indiqués là, se dépensent pour être utiles pour le bien de tous.
Problème, si j'ose dire, des anciens, si j'ose dire problème, c'est que aujourd'hui, on a une difficulté, parce que quand on regarde la parole de Dieu, on voit que les anciens étaient nommés par les apôtres et par leurs délégués. Ça, c'était la méthodologie.
Dans Actes 14, on voit que, au verset 23, leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, alors leur, c'est Paul et Barnabas, ils ont donc annoncé la parole dans les assemblées, ils ont fait leur voyage, ils reviennent, et quand ils reviennent, ils choisissent des anciens dans chaque assemblée, non pas dans quelques assemblées, mais dans chaque assemblée. Pourquoi ? Parce que la pensée de Dieu, c'est qu'il y ait de l'harmonie dans la vie de l'assemblée, et que les soins soient apportés aux âmes. Alors, dans notre passage, il est question de mettre en ordre des choses. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se souvienne que la pensée de Dieu, c'est qu'il y ait de l'ordre, mais l'ordre, ce sera de l'harmonie. Parfois, on dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées. Alors, l'ordre, selon Dieu, dans l'assemblée locale, c'est la paix. On peut établir un ordre sans qu'il y ait la paix. Si on impose un point de vue, si on l'impose avec force, si on domine, à ce moment-là, on peut imposer un ordre, mais il n'y aura pas la paix. La pensée de Dieu, c'est qu'il y ait la paix. Tout à l'heure, Daniel a lu ce passage de Marc, où il est dit « Les grandes nations dominent sur elles ».
Mais le modèle qui est donné dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus. Moi, il dit, je ne suis pas venu. Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Dans un autre passage, dans l'Évangile selon Luc, et c'est pour donner l'esprit du service, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, au moment où le Seigneur a instauré la scène, c'est un passage un peu parallèle. Verset 25, les rois des nations dominent, ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Au passage, celui qui est appelé bienfaiteur d'un peuple, est-ce que c'est le peuple qui est le centre ou le bienfaiteur qui est le centre? Il travaille pour lui-même. C'est le principe du monde, si on peut dire. Celui qui a la tête, il domine, et puis il en retire du bénéfice, et lui qui est appelé bienfaiteur. Mais la pensée du Seigneur n'est pas du tout celle-là. Dans les deux textes, je crois, il n'en sera pas ainsi de vous. Et je crois que ça, il faut vraiment que dans la vie d'assemblée, on se souvienne de ça. C'est absolument pas la pensée du Seigneur que l'un d'entre nous devienne quelqu'un qui se croit essentiel, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui impose, quelqu'un qui devient le centre. C'est absolument pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il y ait des frères qui se donnent à leurs frères, qui servent. Comme le Seigneur Jésus s'est donné. Comme le Seigneur Jésus dit au verset 27, « Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Être quelqu'un qui sert. Alors, il y a un autre côté encore. C'est quelqu'un qui sert. C'est quelqu'un qui marche à la suite du Seigneur. Et puis, c'est quelqu'un qui est établi par l'Esprit Saint. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour être l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son Fils. Quelqu'un qui est établi par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui se place devant Dieu, prenant garde à vous-même, quelqu'un qui a le souci de nourrir l'assemblée de Dieu, et quelqu'un qui sait que cette assemblée, elle est à Dieu, puisque Dieu se l'est acquise par le sang de son Christ, de son Fils. Alors, c'est quelques petites touches où on va aller peut-être plus loin dans l'étude de cela, mais déjà au départ, la pensée de Dieu, c'est qu'il y ait dans de l'harmonie, de la paix dans l'assemblée locale. Pour cela, il désire qu'il y ait des frères qui soient comme des bergers, établis par l'Esprit de Dieu, qu'ils forment, à qui ils donnent certains caractères. Pour cela, il va travailler dans le cœur de ses frères pour qu'ils désirent travailler pour le Seigneur, pour qu'ils désirent marcher à la suite du Seigneur, pour que le fruit de cela, ce soit que le Seigneur soit glorifié. Voilà la pensée de Dieu. Ça, c'est un défi pour le vivre. Et en plus, si aujourd'hui on n'a plus d'apôtres pour nommer des anciens comme on le voit dans le livre des Actes, s'il n'y a pas de délégués d'apôtres puisqu'il n'y a plus d'apôtres, on a deux passages où il y a les caractères selon Dieu de ce qui est un ancien pour que nous, aujourd'hui, nous sachions les reconnaître. Nous sachions reconnaître à travers cela. Ces caractères-là ne sont pas donnés pour qu'un frère dise « Regardez-moi, j'ai la liste, c'est moi l'ancien. Hein. » D'abord, je suis plus vieux, j'ai les cheveux blancs. Et puis, bon, j'ai quelques petits défauts là, mais on peut passer vite, mais c'est moi l'ancien. Non. Ce texte-là, il n'est pas donné pour que quelqu'un qui aurait ce caractère d'ancien se fasse lui-même ancien, si on peut dire. Ces passages de 1 Timothée ou 6 sont donnés pour que chacun, soumis à Dieu, nous apprenions à regarder, à reconnaître, en nous soumettant, ceux à qui Dieu a donné ce caractère.
Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 12, c'est bien de reconnaître ceux qui se dépensent de cette manière-là, qui avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. D'autre part, ceux qui portent ces charges de cœur pour la gloire du Seigneur et ont le sentiment que ce sur quoi ils ont à travailler, ça n'est pas quelque chose qui leur appartient, mais c'est le troupeau de Dieu, comme on le trouve dans la première épître de Pierre et au chapitre 5. Et ils agissent là pour aider le troupeau, pas avec contrainte, mais de cœur, volontairement, ils se dépensent, pas pour un bénéfice personnel, mais ils le font de bon gré, en pensant à la gloire du Seigneur. Et puis c'est une manifestation de la gloire de Dieu, ce qui touche encore une fois ce que nous avons vu tout à l'heure à propos des élus, puisque Pierre est amené à dire ici, quand il rappelle ce que lui a entendu de Dieu pour ce service-là, lui qui était un ancien, il dit qu'il aussi est part à la gloire qui va être révélée. Il voit cette gloire de Dieu qui descend ici, qui lui imprime quelque chose, de sorte qu'il entre dans ce service, il ne peut pas faire autrement, mais c'est le déploiement de la grâce et de l'amour de Dieu. Les caractères, bon, je vais commencer, puis d'autres continueront. Hein. C'est donc quelque chose ici qui est un ordre donné par Paul, comme on le trouve à la fin du verset 5, que moi je t'ai ordonné. Et le premier caractère, si quelqu'un est irréprochable. Bon, il y a quelque temps, on nous posait la question en nous disant, mais vous croyez que c'est possible, ça? Bon, ben, je vous dirai simplement ceci. Pierre, c'est un ancien, c'est inscrit dans la parole de Dieu, nous lisons justement au début du chapitre 5 de la première épître de Pierre. C'était un homme irréprochable. Regardez le Seigneur avec Pierre dans les évangiles. Regardez le Seigneur avec Pierre dans à la fin de l'évangile selon Luc et l'engagement de Pierre. Regardez le reniement de Pierre. Et regardez aussi le chapitre 21 de l'évangile selon Jean. Et ce qui a été confié à Pierre ensuite. Donc, irréprochable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaillance, hein, mais quelqu'un en qui on reconnaît ce qui vient de Dieu et une qualification donnée de Dieu. C'est un caractère qu'on retrouve par exemple en Colossiens 1, concernant les chrétiens d'une manière générale, hein, et ils n'ont pas, évidemment, un caractère tel qu'on puisse dire tout au long de leur passage, voilà quelqu'un d'irréprochable. Mais c'est quelqu'un qui se dévoue effectivement, et il n'a ce caractère que dans la mesure où on constate ce dévouement, et pas de défaillance volontaire, c'est-à-dire pas d'entrer d'une manière responsable dans ce que Dieu dénonce et ne peut pas accepter chez un serviteur. Donc, voilà, quelque chose qui est une invitation pour tous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu peut-être jusque-là quelques défaillances et qu'il y en aura encore qu'on ne peut pas porter ce caractère. Voilà, déjà, ça ouvre une liberté pour continuer à regarder aux caractères qui sont mentionnés.
Il me semble que c'est très encourageant l'expression des choses qui restent à régler. C'est pas des choses qui se sont dégradées, c'est des choses qui restent à régler. Parce que ça nous présente à l'Assemblée comme une dynamique, une progression. Comme on devient chrétien, on croit au Seigneur Jésus, on sait rien. Et puis on va progresser, on va apprendre et on va marcher de mieux en mieux. L'Assemblée, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est un organisme en mouvement et donc on fait des progrès. Chez nous, sur les anciens, on n'est pas très au clair peut-être, mais on va faire des progrès. On lit la Bible et si on la met en pratique, on va faire des progrès. Et l'expression qui m'a arrêté, c'est Paul dit à Tite d'établir des anciens dans chaque ville. Moi, je l'ai mis dans chaque assemblée. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des citations, moi, je n'en ai pas trouvé. Pourquoi il dit chaque ville au lieu de chaque assemblée?
Tout simplement qu'il y avait une assemblée dans chaque ville. Il y a une chose aussi, parfois on a dit « Oh, ça va pas du tout dans telle ou telle assemblée, oh, je suis découragé, dans l'assemblée où je suis, c'est l'horreur, je vais m'en aller. » Parce que manifestement, on est, je ne parle pas de choses où il y aurait une vraie désobéissance à la parole de Dieu, où on accepterait le mal, le péché, etc. Mais manifestement, il y a trop de problèmes, donc on est trop loin de c'est pas juste, il faut s'en aller. Alors, je crois que si les assemblées avaient été parfaites, nous n'aurions pas le Nouveau Testament. À moins, ça s'arrêterait à la fin du livre des Actes et on aurait peut-être l'Apocalypse. Mais certainement pas les chapitres 2 et 3. Et si on regarde les épîtres, chaque épître, l'épître aux Corinthiens, on en a parlé, mais même l'épître aux Romains, mais même l'épître aux Éphésiens, vous rendez compte, ces chrétiens célestes, eh bien, c'est là il est écrit de ne plus s'enivrer. Je trouve que pour des chrétiens célestes, c'est assez limite quand même. Puisqu'il y en avait parmi eux qui s'enivraient. Et on lui dit aussi de ne plus voler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, je suis désolé, à Éphèse, il y avait des problèmes. À Colosse, il y avait des problèmes de doctrine. Partout. Et s'il n'y avait pas eu ces problèmes, et dans sa grâce, Dieu a donné le service à l'apôtre Paul ou à d'autres de répondre à ces problèmes par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, nous n'aurions pas les solutions. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on lit le Nouveau Testament en particulier, eh bien, en petit à petit, on a, je ne sais pas, peut-être vous avez fait cette expérience, mais dans l'assemblée locale où on est, il y a un problème, quelque chose qui se développe, on est mal, on n'est pas à l'aise, quelle est la solution? Puis on regarde, et on trouve que, eh bien, il y a la même maladie qui se développait à Corinthe, à Éphèse ou ailleurs. Et Dieu nous donne tout à penser pour nous aider. Et c'est ça qui est formidable. Mais, c'est, dans un sens, tu disais que l'Église et l'Assemblée est un organisme qui grandit, et puis je dirais l'Église aussi, c'est une maison, une famille. Et dans la famille, il y a aussi des enfants insubordonnés. Il y a des problèmes, il y a des crises, il y a des moments de maladie, il y a des cycles. Et bien Dieu répond à cela. Et la pensée de Dieu, c'est que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit dans la parole pour chercher ce qu'il pense et pour le mettre en pratique. Alors il y a une chose quant au problème, je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes, quant à la question des anciens, c'est que il y a une pensée, une chose qui me semble selon Dieu, c'est que pour Dieu, dans l'expression de ce que peut être une assemblée locale, pour Dieu, il veut que chacun de nous fonctionnons à notre place. Il donne des responsabilités différentes à l'un et à l'autre. Et il me semble que la parole de Dieu nous montre qu'il nous engage à prendre nos responsabilités là où nous sommes. Et peut-être une des souffrances qu'on a pu avoir, c'est que d'un côté, nous n'avions pas la piété suffisante pour savoir reconnaître les frères que Dieu avait formés pour être anciens, que certains se sont plus anciens et ont pris le pouvoir, et ça a donné des choses qu'on peut voir. Il y a aussi le fait que tout le monde a cru que un homme égale une voix, donc chacun veut imposer son point de vue, et à ce moment-là, vous n'avez pas, s'il y a 20 frères, ça fera 20 anciens et 20 conflits. Et tout ça, c'est l'esprit du monde qui nous pénètre. Et la pensée de Dieu, c'est l'harmonie et la paix. Pour revenir sur le mot irréprochable, je me souviens une fois, dans une réunion de jeunes, on avait vu ça, et on lit ces passages, il y a une jeune sœur qui dit « Alors, il n'y a pas d'anciens à Bordeaux, parce qu'il n'y en a aucun qui soit irréprochable. » En même temps, irréprochable, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est parfait. Parce que, à ce moment-là, la première chose qui serait donnée là, ce serait irréalisable. Quel est celui d'entre nous qui est parfait? Levez la main. Personne. Bon. Et bien, le irréprochable, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. À qui on peut faire confiance dans son travail, à qui on peut faire confiance dans la vie de chaque jour, quelqu'un qui est conséquent dans sa manière de vivre, tout simplement, avec les limites de chacun. Mais c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et si vous n'avez pas confiance dans un frère pour lui confier quelque chose dans vos maisons, lui laisser les clés de votre maison, il y a un problème. Peut-être chez vous ou peut-être dans le frère, je ne sais pas.
Alors, Jean-Luc a dit deux ou trois fois problème. Alors, il y en a peut-être un, justement. Alors, c'est sûr qu'on est dans une situation où nos assemblées ne sont pas des nouvelles assemblées, et elles existent depuis un certain temps, dans certaines villes depuis 30 ans, d'autres un siècle ou plus. Donc on n'est pas effectivement dans la même situation que ces assemblées qui viennent d'être formées, ou comme c'est un début, on ne sait pas trop, donc il y a effectivement des choses à mettre en ordre, mais ce que Jean disait tout à l'heure est important aussi pour nous, il y a toujours un progrès à faire. La question qui se pose aussi parmi nous, et c'est simplement le fait qu'on a décidé, il a été décidé qu'il n'y avait pas d'anciens nommés parmi nous. C'est sans doute une bonne chose. C'est pas là-dessus que je veux venir. Mais seulement la raison est parce que il n'y a plus d'apôtres, et deuxièmement il n'y a plus de délégués d'apôtres puisqu'il n'y a pas d'apôtres. Comment Jean-Luc nous a donné une troisième possibilité pour que des anciens soient reconnus, auxquels on peut donner un nom, je n'ai pas dit élu, c'est le Saint-Esprit. Puisque dans Acte 20, au chapitre 20, verset 17 et verset 27, on a donc comment sont en tout cas reconnus les anciens, puisqu'au verset 17, Paul s'adresse aux anciens, et il dit au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour faire l'assemblée de Dieu. Là, il est sous question que ce soit Paul ou ses délégués qui aient choisi l'Esprit. Il me semble que en 2005, l'Esprit Saint était encore à l'œuvre. Donc, en France en tout cas. Donc voilà, l'Esprit Saint a nommé, puisque c'est ça, des anciens. On peut se dire, mais comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Puisque quand on regarde dans le chapitre 15, de chapitre 13 de ce même livre des Actes, on voit qu'il y a un exercice de plusieurs qui prient, jeûnent, et au chapitre 13. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, voilà, c'est un certain nombre de, là il y a des prophètes et docteurs, et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tiens, voilà des frères qui prient, qui sont là dans le jeûne, et l'Esprit Saint dit. Alors est-ce que ça a été une voix forte dans le lieu où ils priaient? Peut-être, mais est-ce que c'est pas aussi une voix forte dans l'oreille interne de chacun de ses frères et qui ont eu la conviction tous ensemble que voilà, c'est ceux-là qui vont partir. Donc, ils vont pouvoir dire, c'est Barnabas et c'est Saul qui vont partir. Alors, est-ce que, pourquoi nous? Mais regardez, dans le chapitre précédent, il y avait Barnabas et Saul et ils ont accompli leur service. Voilà 8 ans déjà qu'ils travaillent. Donc, ils étaient en train de se préparer de leur côté. Et vous voyez que la question des anciens qu'on voit ici, on voit où l'irréprochable, on voit mari d'une seule femme, on voit aussi qu'ils boivent pas trop, qu'ils sont pas coléreux, etc. Mais ça, c'est normalement la caractéristique de tous les frères et sœurs, tous les enfants de Dieu. C'est pas avec ça qu'on va distinguer un ancien. Oui, on distingue un chrétien, j'espère, qu'on va être tous distingués par ça. Par contre, qu'est-ce qui les distingue? C'est que, ce qui est fait à Timothée, il y en a qui aspirent à la surveillance. C'est-à-dire, voilà, il y a, là, parmi les frères, puisque vous avez remarqué que ancien, c'est du masculin. On trouvera peut-être des serviteurs et des servantes, diacres et diaconesses, on trouvera, mais là pour anciens, c'est au masculin. Et qu'est-ce que font certaines personnes là? Mais ces personnes, elles ont, et on le voit ici, surveillons. Elles surveillent, donc elles prennent soin, on l'a déjà dit. On a dit tout à l'heure aussi avec Pierre, la première épître de Pierre, que c'était des bergers, des pasteurs. Donc des personnes qui, en plus de caractère qu'on va décrire ici, ont quelque chose vraiment dans leur vie, c'est un amour tel pour les frères et sœurs de l'assemblée où ils se trouvent, qu'ils se dévouent déjà. Donc elles sont caractérisées par le travail qu'elles accomplissent. Et vous remarquez que si ancien, ça peut être un titre, si vous voulez, eh bien, la fonction de l'ancien, c'est de surveiller, de prendre soin, de donner de la nourriture, c'est d'être un berger. C'est comme ça qu'on reconnaît. Eh bien, à ce moment-là, il est de notre devoir de pouvoir dire, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Ça, c'est notre devoir. Et cette crainte que n'ayons pas d'apôtres et de délégués d'apôtres nous a amené à nous taire, ne pas oser dire, parce que, ben oui, on a encore le Saint-Esprit, je suis persuadé que peut-être on a quelque chose à réfléchir là-dessus. Alors, la deuxième chose que je voudrais souligner encore une fois sur ce sujet, c'est que la question est que il est, et j'en posais la question, mais pourquoi ville? Hein, dans chaque ville, tu établis. Réfléchissons un petit peu. À Jérusalem, premier jour, 3000 conversions. C'est bien ce qu'on a vu dans le début du livre des il y en a 3000. Aussitôt après, 5000. À votre avis, l'assemblée à Jérusalem, déjà au bout d'une semaine, 8000 personnes. Vous pensez que, à part ce fait d'aller peut-être dans le temple, dans quelques temps, c'est possible, mais la vie de l'Église, elle n'était pas uniquement de temps en temps dans le temple. Elle était dans les quartiers, elle était dans les maisons. Donc il y avait des églises. C'est pas possible que la vie de l'Église n'était que quand 8000 personnes, 10000, 12000, 15000, parce qu'il n'y avait que des conversions sans arrêt. Donc il y avait plusieurs assemblées dans les villes. Donc l'assemblée à Jérusalem, c'était un ensemble de groupes de personnes qui peut-être se réunissaient ensemble. Et alors, certainement que dans chacune de ces assemblées, donc il y avait un, deux, peut-être plusieurs qui étaient là, mais on ne sait pas, c'est pas dit. Pourquoi je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que dans notre texte, nous avons les anciens. Et c'est toujours au pluriel, les anciens. On trouve pas l'ancien au singulier. Alors, si vous me disiez tout à l'heure, moi je suis l'ancien. Enfin, tu parlais pas de toi, je pense. Mais quand on disait l'ancien de l'église de Bordeaux, non, c'est plusieurs. Et ça, c'est important parce que, et on le verra sans doute, c'est que dans leur caractère, ils ont une fonction différente et complémentaire pour justement que le troupeau puisse avoir tout ce qu'il lui faut. Le troupeau, c'est des brebis. Et les brebis ont besoin d'être conduites, ont besoin d'être nourries, etc. Donc il y a un rôle de plusieurs. Donc pour la ville, ça veut dire qu'il y a sans doute plusieurs assemblées, peut-être un responsable dans ces différentes églises, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'ensemble de ces anciens avait une fonction de s'occuper du troupeau et de faire de sorte qu'il y ait que chacun puisse grandir. Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à ces réflexions pour nous, parce qu'on se dit, soit il n'y a pas d'anciens, alors il faut vite passer au chapitre 2, parce que ça ne nous concerne pas, si on n'en a pas, s'il y en a, où sont-ils?
Point peut-être qui pourrait nous aider à réfléchir là-dessus. Je crains que on ait mal compris ce que ça veut dire nomination des anciens par les apôtres. Je m'explique. D'abord, on n'a pas le mot nomination. Il faut quand même voir de près comment ça se passait. On a cité tout à l'heure Acte 14. Dans Acte 14, ça se passe à Derbe, à Lystre et à Iconium. Notez une chose fondamentale, c'est que l'apôtre passe, il évangélise, il ne s'occupe pas des anciens. Il y a des jeunes assemblées qui sont là. Il va jusqu'au bout de son voyage. Et c'est quand il revient seulement qu'il s'occupe des anciens. Donc, une nomination par un apôtre, c'est pas « je te donne de la part de Dieu un pouvoir surnaturel pour que tu sois ancien ». C'est pas du tout ça. C'est un apôtre qui revient, conduit par l'Esprit, conduit par Dieu, certainement, mais qui voit le caractère de tel frère qui se dévoue pour le troupeau et qui aide l'assemblée, non pas en donnant des galons à quelqu'un, mais qui aide l'assemblée en leur disant « vous avez là un serviteur de Dieu qui prend soin de vous et vous avez à le respecter ». Et une chose intéressante dans Acte 14, toujours quand il est question des anciens, dans notre traduction c'est choisi, au verset 23 des anciens, le mot veut dire montrer du doigt. Comme pour dire, c'est lui l'ancien, c'est lui. Parce que ces jeunes assemblées ne savaient pas voir. Et dans notre épître, dans l'épître à Timothée, quand il est question des caractères des anciens, il ne fallait pas que ce soit un nouveau converti. Mais justement, aussi pour qu'on ait eu le temps de voir ses caractères, dans l'épigraphie qu'on lit aujourd'hui, on manque un peu de détails historiques, on ne sait pas trop quand Paul y est passé, bon, sans doute entre les deux épîtres à Timothée, mais en tous les cas, il y est passé peu de temps, je ne pense pas que ce soit dans le voyage où il partait à Rome comme prisonnier, auquel il fasse allusion, il est passé tellement peu de temps qu'il a dû laisser Timothée. Alors Tite, tu restes sur place, tu vas voir. Et c'est pas un pouvoir surnaturel qui va te dire au hasard c'est celui-là et c'est celui-là les anciens, pas du tout. Tu vas voir de la part de Dieu quels sont ses caractères. Et tu vas les établir, c'est-à-dire on va les reconnaître, on va s'en rendre compte. Alors, c'est sûr, Dieu aidait les jeunes assemblées par la présence des apôtres et de leurs envoyés pour discerner les anciens. Mais c'est un processus tout à fait simple et un processus qui est placé devant nous pour que nous acceptions cette autorité telle qu'elle est expliquée dans ces passages.
Il faut remarquer que Tite vivait ici avec les chrétiens stress, hein, parce que dans les caractères, eh bien, il faut d'abord qu'ils reconnaissent qu'il y a une autorité dans la famille et une vie de famille qui manifeste justement quelque chose qui est donné de Dieu et qui est dans l'ordre des pensées de Dieu. Comment voulez-vous réaliser la fin du verset 6 sans vivre là, sans avoir des contacts dans les familles, sans voir comment les choses se passent dans la famille? Les enfants non accusés de dissipation ou insubordonnés, voilà, on entre dans les familles et on voit les choses, donc la vie d'une assemblée, c'est une vie de relation, comme ça, où on entre dans les familles, il n'y a pas de maison fermée, et on peut voir ces choses-là, et puis le chapitre 3 de la première épître à Timothée précise bien que s'il n'y a pas cet ordre-là, eh bien, on ne peut pas être qualifié pour porter des charges dans l'assemblée. Voilà, c'est très clairement exprimé. Ensuite, il y a l'administration des choses que Dieu donne. Irréprochable comme administrateur de Dieu. Voilà, il est là pour gérer quelque chose devant Dieu, de la part de Dieu. Le gérer avec maîtrise de soi, non adonné à son sens, non colère, non à donner au vin, avec sagesse et douceur, non batteur, et puis sans penser à un profit personnel, non avide d'un gain honteux, et puis exerçant lui-même l'hospitalité. Tiens, quelqu'un qui a le caractère d'ancien, c'est aussi quelqu'un qui est hospitalier. Voilà, on peut aller chez lui, et par conséquent, on peut reconnaître que dans sa famille, eh bien, il y a ce qui est selon la pensée de Dieu. On reconnaîtra une gravité, une sobriété, une autorité qui s'impose simplement, qui fait du bien, qui est bienfaisante, Et par conséquent, on trouve ici le caractère, mais s'il n'est pas hospitalier, on ne pourra pas entrer chez lui, on ne pourra pas réaliser la fin du verset 6. Voilà, aimant le bien, ou les gens le bien, et puis, sage, juste, pieux, continent, bon, on a évoqué un petit peu ces choses-là, et puis très attaché à la parole de Dieu. Instruit lui-même dans la parole de Dieu, de manière à être capable tant d'apporter une exhortation qui soit véritablement selon les pensées de Dieu et qui inscrive les pensées de Dieu d'une manière affective sur le plan spirituel bien saisante, de sorte que ça s'impose, qu'on sent ici l'amour et la grâce qui portent les choses, et puis ensuite, eh bien, s'il y a des contradictions, quelque chose qui n'est pas selon la pensée de Dieu, eh bien, il doit être capable, par sa connaissance et par son habitude de présenter les choses, de réfuter les contredisants. Alors, évidemment, l'heure tourne, il va peut-être falloir marquer un petit temps ici, maintenant, mais on a touché un petit peu du doigt ce qui est dans la suite du chapitre. Eh bien, s'il y a de l'insubordination, s'il y a un apport de doctrine qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut voir inscrit chez les siens, eh bien, il doit avoir de l'autorité, et les anciens doivent avoir de l'autorité et une vraie communion pour fermer la bouche à ceux qui apportent du dommage. Bon, peut-être on pourra dire quelques mots, mais pas plus d'une dizaine de minutes, sur la fin du chapitre, pour qu'on puisse ensuite entrer dans ce qui a été retenu des chapitres 2 et 3.
À propos du nombre d'anciens dans chaque assemblée, si on peut dire, dans l'épître aux Philippiens, au début, dans la salutation de l'épître aux Philippiens, Paul écrit à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs. Non pas avec le surveillant et les serviteurs, mais avec les surveillants. Donc la pensée de Dieu, comme quand ils choisissent des anciens, ce n'est pas choisir un ancien, mais des anciens, qui est donc une sorte de collégialité. Ça, c'est ce que je crois, c'est la pensée de Dieu. Une chose qui est aussi peut-être, pour revenir un peu sur ce que disait Élie, ce n'est pas, quand les apôtres venaient, ce n'est pas le fait de nommer qui va donner les caractères, mais c'est reconnaître ceux qui ont ce caractère pour les désigner. Si on imaginait un système pour élire ou nommer des anciens, mais s'ils n'ont pas ce caractère, ça ne présente aucun intérêt, ça ne va pas le donner. Encore une chose, qu'il soit irréprochable comme administrateur de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci à propos des conducteurs, au chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » Administrateur de Dieu, c'est quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui a rendre compte à celui sous l'ordre duquel il est, rendre compte à Dieu. Et encore une chose, je ne crois pas qu'il y ait dans la parole d'anciens national, régional ou autre. Ce qu'on trouve, c'est dans chaque assemblée, la pensée de Dieu, c'est qu'il y ait des frères responsables qui prennent la charge de service, qui prennent en charge le troupeau, qui est ce caractère d'ancien. Mais, à moins que je me trompe, et je ne crois pas qu'on puisse trouver un passage qui montrerait des anciens de la Galatie, des anciens de la région de Corinthe ou autre. C'est dans chaque assemblée, dans chaque ville. Et ça, c'est important. Et il n'y a pas, alors, d'église nationale, église grecque, romaine ou autre, pas plus qu'aujourd'hui, il y a des assemblées françaises, suisses, belges, allemandes. C'est l'assemblée de Dieu.
Quand on lit ce passage, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à la question de l'autorité. On est tous pour l'autorité dans l'Assemblée qui amène de la paix, l'autorité des anciens, et je suis sûr que quand on lit ces passages, on se dit c'est bien. On est tous pour l'autorité quand elle s'applique aux autres. L'autorité, ça veut dire que quand un frère spirituel pense différemment de moi, je suis prêt à accepter et à marcher avec ce frère dans un chemin qui n'est pas forcément celui qui me semblait préférable. Je sais bien qu'il y a une question, c'est par rapport au Seigneur qu'on marche, c'est par rapport aux convictions qu'il nous donne. Mais dans la marche collective, il y a un autre mot qui existe, c'est la soumission les uns aux autres, dans la crainte de Christ, bien sûr. Si nous lisons ces passages en retenant qu'il faut fermer la bouche aux opposants, ça y est dedans, mais on n'a pas compris l'essentiel. Il nous faut lire ces passages avec la pensée d'une soumission personnelle quand Dieu donne de l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas comme moi je l'ai imaginé, mais comme Dieu l'a donné ici et là. Alors, que Dieu nous aide dans ce sens-là.